Bol Audio,
votre radio bolloise.
Retrouvez tous les vendredis une émission qui parle de votre commune.
Des rubriques, des interviews d'habitants et de la musique.
En podcast sur le site de la mairie de Bol.
Bonjour à toutes et à tous. On est déjà à la deuxième émission dans le local de Sac à dos de Bol Audio. Les jeunes du Sac à dos sont présents avec moi. Donc autour sur le plateau, il y a Louis, Emma et Émilie. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Pour cette deuxième émission, on va accueillir un invité tout à l'heure. Mais auparavant, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé, sur l'action que vous avez menée en coopération avec la Banque Alimentaire, donc dans les supermarchés des environs. Émilie, je te passe la parole.
Qu'avez-vous fait ce samedi 30 novembre au Taver?
On s'est retrouvés du coup au magasin commercial, on va dire, de Taver. Et on a distribué des flyers aux gens qui rentraient dans le magasin.
C'était des petits bons, en fait, des coupons,
ouais,
pour la banque alimentaire. Et le but, on voit ça un peu tous les ans, le but c'est d'aller, quand vous faites vos courses, c'est de prendre un article pour les gens qui en ont besoin.
Et comment cette journée s'est-elle déroulée ?
Donc on est arrivé l'après-midi, donc on a eu des gilets pour bien montrer aux gens qu'on faisait partie de la banque alimentaire. Après on a eu des flyers pour donner à des personnes, si les personnes ils les prenaient ou non. Et donc après les gens qui voulaient, ils nous ramenaient des denrées et du coup on les mettait dans les caddies et ensuite les caddies on les emmenait dans la réserve. Puis on les mettait dans des bacs, donc les bacs, on mélange pas tout, c'est des catégories, on peut dire ça. Par exemple, on a les soins, qui vont avec tout ce qui est crème, couche, tout ça. Les conserves, les gâteaux, les pâtes avec le riz, le couscous, tout ça. Et voilà.
Et vous avez pu remarquer que les gens revenaient majoritairement avec plutôt un article ou plusieurs? Ça pouvait arriver qu'ils reviennent avec plusieurs articles.
Moi, de mon côté, vu qu'il y a plusieurs entrées, les gens revenaient souvent avec au moins deux choses.
Mm-hmm.
En fait, il y a surtout des pâtes sur tout ça, en fait.
Ouais,
vraiment.
Ouais.
Est-ce que vous avez une idée du poids approximativement que vous avez gagné?
Oui, ça serait 1233 kilos de doré.
Alors, Louis, tu disais hors micro que ça te semblait moins que l'année dernière, tu penses?
Oui, parce que vu que je suis allé dans le derrière du Leclerc,
ouais,
là, on
ne
pense jamais aller quand on fait nos courses.
On n'a pas le droit d'y aller.
J'y suis allé aussi l'année dernière. Et l'année dernière, on pouvait même plus mettre les articles dans les boîtes, tellement qu'il y avait d'articles,
ouais,
de denrées,
ouais,
on dirait.
Ouais.
Et du coup, on était obligé de chercher des cartons ou des trucs comme ça dans le Leclerc pour pouvoir les mettre. Et que cette année-là, il y en avait encore qui n'étaient même pas remplis. Donc oui, je trouve qu'il y en avait moins que l'année dernière.
Ouais. Apparemment, c'est un constat aussi de la banque alimentaire, puisqu'elle constate une baisse du volume collecté. En tout cas, apparemment, vous avez réussi à récolter entre les supermarchés de Taver et Cléry-Saint-André 1664 kilos de denrées alimentaires. Bon, c'est toujours trop peu, mais c'est déjà ça. Justement, les responsables de la banque alimentaire remercient vraiment chaleureusement les jeunes de Sac à dos. Donc voilà, vous pensez refaire la même chose l'année prochaine? C'est quelque chose. Emma, c'est quelque chose que tu avais déjà fait aussi l'année dernière?
Oui.
Ouais. Bon, Louis aussi.
Oui.
Émilie, non, hein. Tu l'as pas fait cette année?
Pas cette année, l'année dernière, oui, je l'ai
fait.
Ouais,
voilà, c'est ça. Oui, ça tourne un peu, quoi. Émilie?
Et aussi, une dernière question, qu'avez-vous retenu de cette journée?
Personnellement, j'ai retenu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément, pas aimables, mais qui essayaient de nous esquiver, alors qu'ils pourraient juste nous dire par politesse, non, désolé, ou non tout court, mais au moins nous dire quelque chose et pas limite s'enfuir.
Voilà. C'est dit, voilà. Mmh. Merci.
Bah,
on se fait une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après avec notre invité.
tirer par terre dans la poussière. Tu te penches et tu vois un soleil blessé. En douce, tu le ramasses et le portes à ta bouche. Sans brûlure, tu l'embrasses et soudain, tu l'avales. Le soleil pleure des larmes de plaisir. Le soleil nous éclabousse du sang de pamplemousse. Je sèche, tu chantes la naissance d'une passion moderne. Tu allumes sous la voûte une nouvelle étoile. Est-ce que ça te plaît d'éclairer le soleil pleure des larmes de plaisir. Le soleil nous éclabousse du sang de pamplemousse. Yeah. Du sang de pamplemousse. Tu marches dans la ville et personne ne voit que ton ventre est le domicile d'un jeune soleil. Ses rayons cachés éblouissent souvent de leurs mille flammes. Ton rire, tes yeux, le soleil pleure des larmes de plaisir. Le soleil nous éclabousse du sang de pamplemousse. Le soleil pleure des larmes de plaisir. Le soleil nous éclabousse.
Eh bien, on est toujours dans le local sac à dos. Alors, Louis et Émilie sont restés avec nous pour recevoir notre invité. Dimitri, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu pour cette première interview. Alors, Dimitri, on t'a fait venir. Alors, c'est pas par hasard, puisque il y a un projet cirque sur Bôle qui est en cours. Donc, je vais te demander, dans un premier temps, de te présenter. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu ne fais pas que du cirque. Et puis après, Émilie et Louis m'accompagneront pour te poser des questions, pour en savoir un peu plus sur toi.
Je suis donc artiste, je me présente souvent comme ça, je suis artiste et pédagogue. Ça veut dire que j'ai une casquette, donc la casquette artiste, c'est plutôt la casquette de scène. Voilà, je l'explique un peu comme ça, c'est-à-dire que je suis confronté à un public, à des étapes de création, de spectacle, de recherche et de tournée. Donc moi, j'ai été en tournée pendant quelques années, une bonne partie de ma vie, j'étais en tournée.
Oui, voilà. Je sais que tu as fait partie d'une compagnie qui s'appelait Le Petit Cirque.
Qui s'appelle toujours Le Petit Cirque.
Oui, qui existe toujours, d'accord.
Tout à fait.
Donc tu as tourné pendant 4 ans.
J'ai tourné pendant à peu près 4 ans avec eux, dont un an de résidence.
Ta spécialité au sein de ce Petit Cirque, c'était quoi ?
Donc au sein du Petit Cirque, j'étais acrobate et en voltige aérienne.
Alors c'est quoi la voltige aérienne ?
Voilà, donc avec eux j'ai appris ça. Ouais. Moi je viens pas de la voltige aérienne, donc avec eux c'est une compagnie, c'est des anciens des arceaux, donc des arceaux c'est trapèze volant, voilà, très grande hauteur. Et ils ont monté donc leur compagnie et leur spécialité c'est un peu le travail en hauteur. Donc tout ce qui est aérien, ça va être, moi je faisais du cadre aérien, donc c'est une structure rectangulaire où on est à deux, on se suspend. Et donc il y a un porteur, un voltigeur. Et le but du jeu, c'est de se balancer le plus haut possible. Et à l'intérieur de ces ballons ou à l'extérieur de ces ballons, au bout de ces ballons, on fait des acrobaties. Donc tout ce qu'on voit au sol, les saltos arrière, tout ce qu'on connaît un peu dans notre imaginaire, enfin dans notre ce qu'on connaît un peu du cirque.
Ouais, du cirque. C'est-à-dire que si vous faites effectivement un salto arrière, là vous le faites en l'air, quoi.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Voilà. Ok. Donc ça comporte quand même un certain
C'est une autre technique. C'est une autre technique. Ouais. C'est tout un apprentissage.
Donc pour bien qu'on comprenne, le trapèze est fixe.
Là, c'est pas un trapèze.
Non. Ah, c'est pas un trapèze.
On avait un trapèze, ouais. Mais là, moi, j'ai appris le cadre aérien, c'est pas un trapèze. Donc, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de barre, c'est pas la même discipline.
D'accord. Ouais. D'accord. Donc, tu as tourné pendant 4 ans et après, tu as décidé de faire une pause.
C'est ça. Voilà. Ouais.
Tu as fait beaucoup de musique.
Beaucoup.
Voilà. Ouais. Donc, on peut dire, comme souvent, les artistes de cirque. Évidemment, vous êtes obligé d'être polyvalent, c'est-à-dire que tu es à la fois musicien, tu touches au théâtre aussi, et tu fais quoi d'autre ?
J'écris beaucoup, donc il y a un travail de texte aussi, d'invention, et je me suis aussi formé donc, en médecine, ce qu'on appelle alternative, voilà, en médecine japonaise, donc autour du soin. Voilà, je me suis vraiment intéressé aussi au corps, aux soins, enfin, pour moi c'est un tout, hein, mais voilà, ça a fait partie aussi de ma formation.
D'accord. On en parlera après. Je vais passer du projet cirque sur Bôle. Bah, à l'heure actuelle des choses, on peut voir un magnifique chapiteau qui est installé pas loin de l'église, je me souviens bien.
Ouais.
Voilà. Pour l'instant, il ne s'y passe rien parce que c'est pas encore tout à fait prêt.
Voilà, c'est ça. Il y a une pause là.
Il y a une petite pause, mais bien sûr, on vous informera par l'intermédiaire de Bôle Audio, de la radio, mais aussi bien sûr, vous allez communiquer une fois que les cours auront repris. Émilie, tu as une première question pour Dimitri.
Oui, comme apparemment le cirque est un métier dangereux, est-ce que vous avez déjà eu peur de mourir ?
Oui, plein de fois. Plein de fois, mais enfin, la mort, c'est quelque chose on s'y confronte. Alors chaque artiste prend conscience de ça comme il veut, et on s'y confronte tout le temps. Tout le temps. Après, le cirque a beaucoup évolué. Il y a une époque où on faisait beaucoup de choses sans filet, pour justement impressionner, sans filet, sans longe, sans précaution particulière, parce que c'était le but du spectacle. C'était que la mort, elle soit toujours là et que voilà. Donc là, le cirque a beaucoup pris, comment dire, des mesures là-dessus. On est toujours longé. Donc on a conscience de cette mort-là, mais on prend beaucoup moins de risques. Beaucoup moins de risques qu'avant.
Vous êtes hyper sécurisé.
Hyper sécurisé, voilà. Alors ça dépend, il y a des compagnies qui n'aiment pas trop ça, la sécu.
Ah oui ?
Il y a des compagnies qui bossent, qui justement aiment bien cette adrénaline-là, de ne pas être sécurisé, de travailler. Et ce que je peux tout à fait comprendre, parce que par exemple en travaillant en hauteur, moi j'adorais par exemple voltiger sans longe. C'est pas du tout la même sensation qu'avec la longe. Donc la longe, c'est quelque chose qu'on met à une ceinture qu'on a autour de la taille. Et on la sent tirer, on la sent pousser. Elle est là pour nous protéger, donc on la sent énormément. Et quand on est en l'air, c'est pas du tout la même chose d'avoir une longe ou pas, ou ne pas en avoir. Donc c'est vrai que c'est très appréciable de ne pas en avoir au maximum. Mais on fait attention que ça soit dans des figures où c'est possible, où on prend le moins de risques possible.
Une question, Louis ?
Oui, c'est ce que je vous ai entendu dire, que vous avez appris la médecine japonaise. Donc vous y êtes allé au Japon ou...
Non, je ne suis pas allé au Japon. Maintenant, tout ce qui est médecine traditionnelle, japonaise, chinoise, enfin alternative, qui viennent plutôt de l'Est, ça s'est implanté énormément en France, en Europe. C'est-à-dire qu'il y a tous les moyens possibles pour apprendre ça dans le pays où on est, en Europe. Voilà, ça a été vraiment...
Puis tu disais effectivement que c'est en rapport avec le corps, parce que, je veux dire, en même temps, on ne se rend pas compte, mais ça a quelque chose de violent, le cirque, dans les entraînements, dans les postures, dans les... Enfin, c'est pas la peine de... Bon, quand on voit une contorsionniste, par exemple, au cirque, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» On sent qu'il y a de l'effort, mais voilà, quoi, c'est hyper violent quand même. Hein.
C'est violent, hein? Alors c'est technique surtout, on fait, c'est violent. Moi, je le considère, le cirque, un peu comme du sport à haut niveau,
ouais,
qu'on rend excentrique. C'est-à-dire qu'on rend ça un peu, on parlait de contorsion tout à l'heure, on va chercher les limites, on va chercher le plus loin possible de la normale en fait.
Ouais.
Et c'est ça le cirque, c'est un peu du sport à haut niveau, un peu anormal.
Émilie, une autre question ?
Depuis combien de temps vous vous intéressez au cirque et depuis combien de temps vous en faites ?
Le cirque, j'ai commencé à m'y intéresser au lycée. C'est venu petit à petit, cette histoire elle a commencé au CM2. J'ai eu un prof, je me souviens très bien de son nom, Monsieur Bouchard, qui nous a fait faire de la canne de combat, c'est un dérivé de l'escrime, avec un bâton en bois, de la boxe, du judo. Et donc moi, il m'avait demandé il m'avait un peu repéré sur toutes ces activités-là, parce que j'aimais beaucoup ça, et que bon, l'école, c'était pas trop ça, mais par contre le sport, oui. Et il m'avait demandé, par exemple, quand on faisait du français, de chanter une chanson, de me mettre en avant en fait sur scène. Et le lien entre le sport et la scène se sont faits à ce moment-là. Pour moi, ça a commencé vraiment à cette étape-là avec ce prof-là en CM2. Après, j'ai fait un peu de gym. Et en gym, j'ai fait de la compétition. Et ça m'a pas vraiment plu, ce côté compétition. Il se trouve que le copain de la prof de gym que j'avais était prof dans une école de cirque. Voilà, donc c'est là que ça a commencé. Je me suis dit, bon, bah, la compétition, c'est pas mon truc. Le sport, oui, mais j'ai besoin d'un peu d'artistique, d'un peu de théâtre. Donc le cirque correspondait très très bien. Et c'est là que l'aventure du cirque a commencé.
Louis, une question ?
Est-ce que vous avez participé ou pratiqué la clownerie devant le public ?
La clownerie, hein, j'aime bien ce mot.
C'est pas comme ça qu'on dit.
Si, on peut dire comme ça, la clownerie.
Ça sonne comme un nom de magasin où on trouverait que des nez rouges.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de règle là-dessus. C'est bien, la clownerie, ça ne me gêne pas du tout. Moi, j'ai découvert ça en stage. Je ne suis pas du tout issu de ce milieu-là. Avant, ça se transmettait donc de famille en famille, dans les cirques traditionnels. Mais ça ne s'expliquait pas. Ce n'était pas un apprentissage. C'était quelque chose qui se faisait voilà, comme ça. Il fallait se lancer. Maintenant, on a plein d'écoles, d'écoles de clowns. Comme le Samovar à Paris, par exemple, c'est une école de clowns spécialisée dans le clown, pour ça, quoi. Donc moi, j'ai découvert ça à l'école de cirque où j'étais, à Châtellerault. On a eu des stages d'une semaine, deux semaines, voilà, de clowns, mais pas plus. Et ensuite, j'ai fait des stages par moi-même pendant que j'étais là dans la compagnie Le Petit Cirque. J'ai fait un stage d'un mois et demi, et puis un autre d'un mois. Donc j'ai fait, en gros, j'ai dû faire trois stages de clown. Mais le clown, il s'apprend pas dans les stages. Le clown, il s'apprend dans la rue, il s'apprend sur scène. En fait, il s'apprend avec le public. Donc, c'est là qu'on fait ses armes, on va dire, sans ses armes de clown. Hein. Donc voilà, moi j'ai. Donc là, c'est un projet de continuer le clown, mais je dirais que c'est un apprentissage un peu de toute une vie, si on a envie de persister un peu dans ce métier-là.
Une autre question, Émilie ?
À quel âge vous avez commencé le cirque devant le public ?
Devant le public. C'était à Châtellerault, les premières représentations, c'était à Châtellerault, donc c'était aux périodes du lycée. Donc je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça. Là, c'était mes premières scènes, ouais, en cirque.
Dimitri, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Bah écoutez, ce que je peux rajouter, c'est que il y a un projet là super qui se monte à Bôle. Je suis très content d'y participer. Et il y a une ouverture aussi d'esprit qui fait qu'on peut imaginer donc des ateliers de cirque. Mais surtout au niveau de la communauté de communes, des choses qui peuvent se faire aussi en musique. Donc musique, cirque, clown, théâtre. Donc ce que j'ai à dire, c'est que ouais, ce projet, il est vraiment intéressant. Et au fur et à mesure, il y aura un peu de monde. On va essayer de mettre en place le côté aussi, l'axe pédagogique qui permet de relier un peu tous ces arts et savoir ce qu'on peut y faire ensemble.
Donc il y aura probablement des ateliers, peut-être des stages aussi.
Voilà, c'est ça, on pense à plein de choses,
voilà,
sous différentes formes.
C'est sur le feu.
C'est sur le feu, il y aura aussi des interventions en extérieur, c'est-à-dire qu'on pense vraiment à être mobile dans les écoles, auprès des associations, auprès des maisons de quartier, s'il y en a dans les plus grosses villes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être sur le territoire.
Et c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Et en attendant, vous nous tenez au courant dès que
bien
ça
sûr,
démarre.
Bien sûr, on n'y manquera pas.
Voilà. Merci beaucoup, Émilie et Louis, d'être avec nous. Et puis, Dimitri, merci beaucoup. Et puis, bonne route alors.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Petite
merci
pause musicale.
Agenda. Toutes les activités de Bâle.
Les temps forts de l'année 2020. Concert de la société musicale.
Le 25 et 26 janvier, 31 et 1er février.
Le Carnaval.
Le samedi 21 mars.
Commémoration Abbé Pastis et du 8 mai 1945.
Vendredi 8 mai.
Festival de Bâle d'Air.
22, 23 et 24 mai.
Réouverture de la guinguette La Corne des Pâtures.
Courant juin.
Fête de la musique.
Dimanche 21 juin.
Feu d'artifice.
Lundi 13 juillet.
Brocante du comité des fêtes.
Le dimanche 6 septembre.
Bourse aux jouets.
Dimanche 25 octobre.
festival jeune public Chapimoum.
Pendant les vacances de la Toussaint.
Et la commémoration de l'armistice.
Le mercredi 11 novembre.
Bol Audio.
Votre radio bolloise.
Parole d'habitants. Aujourd'hui, Madame et Monsieur Rousseau.
Ouvrier agricole, c'est votre métier de départ ?
Mon métier de départ, non, c'était travailler la terre, travailler les vignes et les champs avec les parents, quoi. À 14 ans, quand je suis sorti de l'école, directement, ça a été aller travailler dans les vignes, et puis tout, on faisait de la polyculture et tout, un peu le tout, quoi. À la maison, bon, il y avait encore quelques bêtes, quelques vaches, et il y avait les poulets et lapins, bien sûr, comme partout, hein, et puis bah, il y avait... On faisait les pommes de terre, on faisait un peu de blé, on faisait tout ça, quoi. Puis après, c'est sûr que le... ça a un peu changé à partir du moment, nous, après, quand on s'est mariés, tout ça, on n'a pas continué les bêtes et tout ce qui s'ensuit, quoi. On s'était plutôt dirigé sur les arbres fruitiers, puis on faisait encore de la vigne, quoi.
Les bêtes, c'était... Vous avez arrêté les bêtes parce que c'était trop contraignant ?
Le problème, oui. Et puis le problème, c'est que bon, toutes les fermes par ici avaient 400 bêtes, 5-6 bêtes, quoi. Mais enfin, c'était plus...
Des vaches,
oui. Et puis des chevaux, quoi. Sur la culture, il n'y avait pas de tracteur. J'ai commencé à labourer avec les chevaux, moi. Et puis dans les vignes, on le faisait avec les chevaux, automatiquement. Hein. Mais enfin, après, les... Avoir des vaches, c'était des vaches laitières, quoi, 400 bêtes toute l'année. Chez les anciens, dans les fermes comme ça, il y avait quelques poules, quelques clapins. On vendait toujours aux voisins ou comme ça. Je me rappelle le moment, tous les jours, sur la table, il y avait 5 ou 6 laitières. Les gens du quartier, ils venaient acheter, chercher leur litre de lait, quoi, puis ils payaient en fin de semaine. Et ça faisait l'argent pour faire vivre la semaine tout le monde, quoi. Parce que, bon, bah, les rentrées d'argent, à ce moment-là, hein, c'était pas toujours conséquent.
Les gens vivaient sur eux-mêmes, quoi. C'était à quelle période, ça ?
Eh ben moi, je suis sorti de l'école en 50. Et après, j'ai connu encore plus... Moment plus serré dans question pécunier, c'est que papa était prisonnier pendant 5 ans, hein, jusqu'en 45, et tout jeune gamin avec mon frère, maman était toute seule à la maison, hein, on l'aidait comme on pouvait en sortant de l'école et tout, mais après 45-50, c'était des petites exploitations sur Boule, hein, sans problème, alors... On faisait un peu de tout pour qu'il y avait un peu de rentrée d'argent. Et après, ça s'est quand même développé à partir des années 50, quand les arbres fruitiers ont commencé à être plantés, quoi, et à récolter. Il est venu une période où il y a eu quand même un peu une meilleure rentrée d'argent. C'était beaucoup de travail de main-d'œuvre, mais enfin, on arrivait à sortir quand même... Un pas trop mauvais salaire, quoi.
Alors, est-ce que ces arbres fruitiers ont été en remplacement de la vigne ou
oui,
en plus
ça...
Ah, si, il y a eu les deux.
Quand
les arbres fruitiers, c'était le Val, et les vignes, c'était par ici. C'était pas les mêmes terres.
Tous ceux qui se sont mis à planter des arbres, en général, c'était des anciens vignerons qui avaient l'habitude déjà de travailler une plante, le taillage et l'entretenir toute l'année avant la récolte, quoi. Parce que la vigne, dans les années 50 et tout ça, par ici, c'était des petits vins, quoi. Le Grimenier, c'était un petit vin, et puis alors il s'est trouvé à passer des années vraiment mauvaises, de gel, de temps incertain avec de l'eau comme ça aussi, des vendanges tardives, faire des petits vins et ça se vendait pas à des prix. C'est pour ça que les gens après travaillaient toute l'année et puis il n'y a rien à voir au bout. Quand les arbres se sont développés, beaucoup se sont lancés là-dedans en espérant avoir plus de rentrée d'argent quand même, quoi. C'est ça, quoi.
Au début, c'était pas mauvais.
Et oui, oui, on a passé des bonnes périodes. Après, dans les années 90-95, c'était plus la même chose. Hein. Ça avait changé. Hein, et on le voit bien toujours. Hein. C'est toujours le même problème. Les arbres fruitiers, il faut reconnaître que les gens qui font ça ne sont pas payés de leur peine. Hein. Ils n'arrivent de partout maintenant. Et puis, il y a des gens qui arrachent et qui ferment boutique régulièrement, en loi, hein, avec le malaise agricole qu'il y a en ce moment.
Il n'y a plus d'arbres fruitiers. Tout le val où il y a eu du maïs, c'était que des arbres fruitiers. Le 1er mai, c'était superbe, c'était qu'une fleur, c'était beau. Non, ça a été arraché, tout a été arraché. Bah, dans les dernières années, ils ont été à la retraite, après son gars, il n'a pas continué.
Bon, 96 qu'on a arrêté, ça a fini les arbres. En gros, 85, 88.
Non,
pas.
2000.
2005.
Ouais,
2005, c'était à peu près terminé. Hein,
c'est parce qu'on ne pouvait plus en vivre. C'était fini.
Il y avait sur Baule, il y avait plus de 100 hectares d'arbres fruitiers. On est monté à la coopérative. Il y avait des individuels qui ramassaient, qui gardaient chez eux, qui avaient leurs marchands. Et à la coopérative, on est monté jusqu'à 3000 tonnes de fruits.
Donc vous avez travaillé?
Je travaillais à mon compte et on mettait les fruits à la coopérative pour le stockage. Moi, j'ai travaillé à la cave coopérative autour du vin, de 63 à 77. Hum. Et à ce moment-là, je me rappelle en 63, l'année que je l'ai pris, on avait fait quand même au-dessus de 6000 hectares de vin encore. C'était pas du bon vin, parce que 63, 63 a été une année terrible, de l'eau affreux. Et on avait récolté des vins qui faisaient mâlement 9 degrés, 9, 9,5, et c'était vraiment le désastre, quoi. Puis après, ça a diminué. La cave coopérative, jusque vers la fin, ça a plus été une cave de, comment dire, pour les petits propriétaires qui avaient une petite vigne à eux et qui faisaient le vin pour leur consommation.
Pas pour la vente.
Mais ils avaient des petites superficies et en général, à peu près, ils consommaient à peu près tout. Hein. À ce moment-là, les gens, tout le monde buvait du vin dans les campagnes et tout ça, c'est vrai. Et après, ça a changé. Hein. Il ne fallait plus boire d'alcool, il ne faut plus rien. Alors, c'est là le problème, quoi. Alors ça... La vie a complètement changé, quoi. Et puis aujourd'hui, c'est encore pire.
Nous, on en a eu jusqu'à après 94, on a arraché peut-être le reste. Tous les ans, ça diminue, tu vois. Puis il fallait trouver les vendangeurs. Quand on faisait ça entre copains, les week-ends.
Plus personne ne veut travailler cassé en deux. Puis à ce moment-là, les vignes étaient basses. Hein. Puis il n'y avait pas de machine à vendanger, il n'y avait pas tout ça, on faisait tout à la main. Hein.
Nous, on n'a jamais eu de machine à vendanger.
Ça, oui, après, c'était les dernières années, c'était plutôt la grande fête. On faisait le week-end, on a été manger au sous-sol jusqu'à 50 personnes hein, pendant le week-end. C'est comme ça qu'on arrive à le faire. Sans ça, en semaine, on le trouvait.
Pour cueillir les fruits, on était obligé de prendre du monde. Le reste,
enfin,
on faisait bien.
La cueillette des fruits, on arrivait à trouver du monde. Oui. Mais la vendange, après, ça a été râpé. Hein.
Pourquoi, à votre avis?
Pourquoi? Rien que, par exemple, pour les pommes de terre. Il était fait de la belle de Fontenay, que c'était la patate réputée du Loiret. Et les pommes de terre, on embauchait des gamins à 12-14 ans...
Ils faisaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient, mais ils étaient contents, ils avaient une pièce. C'était à la caisse qu'on les...
Ils ramassaient tant de caisses, c'était tant de la caisse, ils étaient contents. Mais après, avec les assurances, on n'avait plus le droit d'embaucher moins de 16 ans. Et alors après, déjà, quand vous commencez à embaucher des gamins qui ont 16 ans, c'est toujours pas facile à mener. Hein, ils sont difficiles aujourd'hui, mais il y en a longtemps, il y en avait aussi qui étaient assez difficiles. Et c'est pour ça qu'il y a bien des trucs qui ont changé et qui ont été abandonnés. C'est pareil. Ici, la coopérative, il y avait les pommes, mais il y avait aussi les pommes de terre,
les asperges. Il y avait
les asperges. Ben, les asperges, c'est pareil, ça a disparu parce que c'est de la main-d'œuvre. Il n'y a plus personne. Puis les terrains...
Les sables.
Ça ne se prête plus pour... au bout d'un certain temps, les asperges, il y a un champignon qui s'appelle dessus, qui s'appelle le pourridier. Et ça fait pourrir la greffe. Je ne sais pas si vous connaissez la greffe d'une asperge. Et...
Allez-y, vous pouvez expliquer.
La
greffe, c'est un peu comme un dahlia, mais...
Oui, mais c'est, ça ne fait pas d'oignon.
C'est des rames, enfin, je ne sais pas comment... Oui, que...
Il y a une tête, et puis ça fait plein de racines,
c'est
quoi.
C'est bien dessus que les asperges.
Et alors, tous les ans, les œilletons se reforment au mois d'août, et c'est ça qui fait les asperges qui poussent l'année d'après. Mais quand ça arrive à une dizaine d'années, si on fait ça pour gagner de l'argent, plus elles vieillissent, plus elles sont petites, et moins vous vendez cher après. Puis il y en a beaucoup moins quand même, quoi. Les
jeunes, ils ne plantaient pas d'asperges, le si peu qu'il y avait, c'était vraiment les anciens.
Les asperges, ça se récolte avril-mai, c'était payé aussitôt, des gens qui pouvaient en faire, ça faisait une rentrée d'argent fin juin, qui était toujours utile, par rapport à celui qui faisait du blé ou du vin, même que vous soyez payé par un compte, ça faisait de l'argent frais, comme on dit, quoi. C'est comme aujourd'hui, les gens qui font les Beaujolais nouveaux et tout ça, qui font rentrer de l'argent pour la fin d'année. C'était le même principe, quoi. Aujourd'hui, à Boulle, quand j'ai commencé dans les années 50, il y avait peut-être une cinquantaine d'exploitants à Boulle. Maintenant, il y en a trois en gros, quoi. Deux, trois. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de pommes à couteau, il y a des pommes de maïs, il y a du blé, du colza, de l'orge, puis c'est à peu près tout, quoi.
Donc, plus une seule vigne?
Ah, plus du tout. Plus une seule vigne et plus un seul arbre. Plus rien du tout.
Il y a déjà plusieurs années qu'il n'y a plus de vignes. Oh oui. Il n'y a pas des vignes depuis l'an 2000, il n'y en a plus, même avant, puisque nous, on était les derniers à en avoir.
Ah oui.
Alors, Jean-Marc, il en avait dans son jardin, mais...
Oui,
en culture, il a eu la retraite en 96, en 94, il n'y avait plus rien.
Les gens qui faisaient ça en rapport, non, les dernières années, puis vraiment... Les derniers qu'on fait du vin pour rapporter, ça remonte, hein. Ça remonte dans les années 90, même avant, les derniers qu'on a.
Gilbert Clément,
quand tu... Oui, et puis bon, Jean-Pierre qu'on avait un peu, là, et puis nous, et puis après c'était fini, hein. Il y avait plus, on était les derniers vignerons à faire de la vigne pour avoir un rapport, quoi. Ce qui s'est passé, il y avait énormément de familles, il y a eu les enfants, mais bon, comme c'était des petites exploitations, il n'y avait pas de la place à plusieurs ménages sur une exploitation. Et ça a commencé, il y a beaucoup d'enfants. Ils ont été à l'école, les enfants ont changé de boulot. Hein? Et après, ce qui s'est arrivé, c'est que tous les agriculteurs à la retraite, c'est là que ça a diminué. Le nombre a diminué parce que c'était un qui reprenait les champs. Les exploitations ont grossi petit à petit, mais les agriculteurs ont diminué et c'est pas revenu. Aujourd'hui,
pourquoi
c'est ça.
Les jeunes ne sont pas restés parce que c'était pas. Ça rapportait pas assez.
Oui, il n'y avait pas un rapport assez intéressant, quoi.
Et pour justement, nous. Quand vous avez vu cette transition, est-ce que les jeunes dont vous parlez sont partis de Boulle ou ils ont fait une autre activité?
Ils ont pris un métier, ils sont partis.
Mais il n'est pas resté. Hein. D'abord, on n'était pas en grande surface. Puis...
Il n'y avait pas possibilité après de sortir. aujourd'hui.
Oui, vous n'auriez pas voulu
qu'il reprenne. On pas voulu, non, mais nous, on a, quand on a commencé, c'était comme ça, on restait là. Bon, j'avais un frère, une sœur, le frangin était parti aux eaux et forêts, ma frangine a travaillé secrétaire en usine, c'est moi qui étais resté là. Bon, ça a marché parce que c'est donc que je suis rentré à la cave coopérative pendant une quinzaine d'années. S'ils nous faisaient un petit salaire à nous pour vivre, et puis après, bon, après les parents ont arrêté, j'ai tout repris, on est arrivé à aller au bout, comme on dit, mais c'était plus rentable.
La fin était drôle quand même, il était temps qu'on arrête. Parce que je suis plus jeune, et lui, il ne pouvait plus travailler parce qu'il fallait qu'il s'opérait des hanches, mais on a bien fait d'arrêter. Si on aurait mangé de l'argent, on n'aurait pas gagné.
On perdait de l'argent. Quoi. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté les arbres et tout ça, parce que travailler et perdre de l'argent, ça ne va pas longtemps. Hein. Et on le voit aujourd'hui, hein, avec tous les agriculteurs, comment que ça se passe. Hein, quand on nous dit
ça, c'est pas amélioré.
Il y a un agriculteur tous les deux jours qui se suicide, ben faut voir. Hein. Mais les gens en ville, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas aussi. Ça, ils ne savent pas quand même, les malheureux éleveurs avec leurs bêtes et tout.
Quand nous on travaillait, ben, on n'avait pas un salaire tous les jours. Hein. On avait des acomptes tous les 4-5 mois, 6 mois des fois. Alors il fallait bien jongler. Hein. Donc ben, on ne mangeait pas au fur et à mesure. Parce qu'on ne savait pas l'année d'après si ça allait rapporter, si quoi ou qu'est-ce. On était obligé d'économiser. Ça
bah de mettre de côté pour partir, on savait bien.
Oui, celui qui travaille qui a son salaire tous les mois, bah, quand on était à la retraite, bah, on savait ce qu'on avait peut-être pas gros, mais on savait ce qu'on avait par mois.
Bah oui, c'est quand même malheureux de dire qu'on est plus heureux maintenant qu'on est en retraite qu'il y en a qui se plaignent de leur retraite, hein, quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, mais enfin. Il y en a beaucoup quand même.
Les c'est comme les artisans et tout ça. C'est chacun fallait qu'il travaille sur lui-même. Mais ça, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Parce que ceux qui sont en usine, le patron, il paye quand même pour leur retraite. Mais ça, non, ils ne savent pas. Ils veulent pas le comprendre. Je ne sais pas pourquoi.
Si on a
voulu se faire quelque chose, c'est nous-mêmes. C'est pas le copain d'à côté qui a dû le faire.
Si on est arrivé à se faire une retraite complémentaire, c'est ça un peu aujourd'hui qui fait qu'on peut avoir faire un peu ce...
C'est un peu le système qui propose aujourd'hui, de mettre de l'argent. Ben oui, mais si nous on ne l'avait pas fait, ben on serait...
Enfin, n'importe comment, le problème qui s'est posé, c'est que quand on s'est marié, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas se permettre de commencer à se faire une retraite complémentaire. Et on a commencé trop tard, mais enfin, on ne regrette pas qu'on a fait, on ne se plaint pas.
Il a fait l'Algérie, en venant de l'Algérie, on lui avait proposé d'être flic, il n'a pas voulu.
Ben, je prenais l'emprunt.
Ils étaient prioritaires, les gars qui revenaient de
l'air. Je venais de passer 27 mois là-bas, hein, avec 21 jours de permission. Parti en civil, revenu en civil. Alors. Ils nous donnent une retraite aujourd'hui, oui, une retraite d'anciens combattants. On a
ouais, enfin, c'est pour ça qu'il fait
600 euros, je crois.
Par an.
Par an. Ah oui, par an. Ah bah oui. On ne peut pas le mettre par mois, non. On peut se faire un petit plaisir encore.
Bon, et puis... tout ce qu'on voit, les gens qui se plaignent quand ils vivent à la campagne, qu'il y a le bruit, il y a l'odeur, pas entendre les... Bon, enfin, mais ils n'ont qu'à retourner vivre en ville.
Alors,
le pauvre malheureux qui avait des... Alors, il a des vaches. Ben, les vaches, dans le temps, il y avait des vaches partout. C'est vrai qu'on n'est plus habitué au fumier. Et ben, pourquoi ils sont venus habiter à la campagne? Alors, il est amendable de 8000 euros. Non, enfin, ça ne tient pas debout, ces trucs. Là, c'est inadmissible, ces choses-là.
Et justement, quand vous travailliez à votre époque, il y avait des gens de la ville qui venaient faire les vendanges de temps en temps.
Ah oui, mais c'était pas du tout les mêmes mentalités. Hein, ça,
non, au contraire, c'était content de venir à la campagne, passer un bon week-end.
Mais ils venaient juste passer un week-end ou travailler éventuellement en saisonnier,
On avait aussi énormément de retraités qui sont venus habiter à Bourg à ce moment-là. Hein. Les maisons, ils se vendaient, beaucoup c'était des retraités, soit du chemin de fer, de ceci, de cela. Mm-hmm. Et c'est des gens qui étaient encore sympas, hein, qui étaient, bon, c'est vrai, pas tous, bien sûr, mais il y en a pas mal qui faisaient des journées comme ça, les vendanges, les ceci, cela, qui venaient aider. Hein.
Des Parisiens?
Oui, mais qui était en retraite avec
Qui avait acheté sur Boulle et puis qui était en retraite là. Oui, il y en a eu. Hein,
c'est des gens qui aimaient bien le contact, qui aimaient bien vivre, qui aimaient bien...
On a eu qui nous ont aidés, puis vraiment des gens qui faisaient ça de bon cœur et tout, et... Ça, vraiment, oui, et gratuitement. Ils venaient, ils mangeaient avec nous et tout, ils étaient... Bon, c'était sympa, quoi. Et on a employé après aussi des retraités pendant longtemps. Un de la poste qui venait aux pommes de terre, aux patates, à la vendange, aux pommes et tout. Là, bon, c'était plus pareil, c'était rétribué quand même. Hein, parce que... Puis après, on était obligé de déclarer les gens. C'est ça le problème.
Même, il était même à une époque, les parents n'avaient pas le droit d'aider les enfants. Les parents à la retraite, ils n'avaient pas le droit d'aider leurs enfants.
On est des...
Alors, il fallait se planter quand on voyait les gars de l'Enval, il y a tout le monde.
Assurance accident et tout, quoi. Il fallait ça, déclarer la mutualité, quoi. Alors, vu qu'on faisait déjà. Qu'il y avait des petites rentrées d'argent, alors si on en se met un peu partout comme ça, à la fin du compte, les rentrées diminuaient énormément.
Et ça veut dire que les réglementations, tout ça, ça s'est accentué, c'est devenu de plus en plus dur.
C'est de plus en plus
cher. C'était dû à quoi ?
Quand tous les pépiniéristes, bah c'est les trucs d'assurance, comme partout, hein, il n'y a pas de problème. Hein,
faut être
assuré pour tout. Hein, puis les gens, il faut les déclarer pour que l'assurance maladie, pour tout. Tout. Hein, quand vous voyez,
tout le saisonnier était déclaré.
Il faisait des contrôles, je me rappelle, dans le temps, dans le Val, au moment de la saison des pommes, je sais pas, il y avait 200-300 personnes qui travaillaient dans le Val. Et la mutualité agricole, ils passaient, hein, voir avec les feuilles de déclaration pour voir si c'était en règle. Hein. Mais aujourd'hui, même autour d'Orléans, les pépiniéristes et tout ça, et encore, si jamais ils emploient une personne au noir, comme des fois ça peut arriver, ils ont intérêt à faire gaffe. Hein, puis, alors les amendes, ils sont sérieuses. Hein.
Mais c'est vrai que vous avez connu le travail en modèle familial.
Oui.
Ah bah oui.
Du coup, c'est vrai que ça a dû...
Oui, bah c'est sûr, au départ.
Être étrange, au départ.
Oui. Bah oui, après, il fallait se mettre...
Le problème famille, on était toujours bien en famille, mais ça a évolué dans un sens que, moi, quand j'étais gamin, il y avait les grands-parents, les parents, les enfants, hein. Qu'après, au fur et à mesure, les jeunes, quand ils sont mariés, ils voulaient avoir leur maison. Hein.
Bon, il y avait ensemble,
plus...
Il avec ses grands-parents.
Enfin, oui. La maison, il y avait une pièce, il y avait les anciens, et puis ben, la grand-mère, elle était toujours là, à garder les petits-enfants après, quand il y en avait, ou les enfants déjà, et puis les petits-enfants des fois après, ça se passait comme ça, quoi. Mais après... Quand on est arrivé dans les années 55-60, peut-être, là, après, vraiment, ça s'est partagé. Les gens voulaient avoir leur maison à eux, quoi. On ne vivait plus tout, même tout en étant bien dans la famille, qu'on essayait quand même d'être chacun chez soi, quoi. C'était l'évolution qui s'est produite.
Alors, on avait plus de 3 ans chez tes parents avant de faire compte.
Ah, ouais. Bah oui, en attendant d'arriver à... Ça...
Ouais, c'était comme ça.